Le Grand Matin Sud Radio. L'enquête de la matinée.
Et c'est le début de notre enquête ce matin, 9h05. Êtes-vous satisfait des votes? Avec nous pour en parler, il y aura Thierry Guerrier qui est avec nous, et bien sûr Véronique Jacquier. Et Olivier Roucan, qui est politologue et spécialiste des institutions et auteur du livre « En finir avec le président » aux éditions François Bourin. Et puis on a beaucoup de gens au standard déjà, 0826-300-300.
Et puis il y en a un qui a la gueule de bois, Francis Allan, tête de liste Alliance Jaune aux élections européennes. Il devait être là, il n'est pas là. Évidemment, hier soir, il n'a pas connu une soirée exceptionnelle avec cette défaite à 0,5%. Véronique, alors, les réactions.
Eh bien, écoutez, du côté des auditeurs de Sud Radio, sur le compte Twitter de Sud Radio, êtes-vous satisfait du résultat? C'est non à 69%, avec effectivement des auditeurs qui sont plutôt gilets jaunes et qui ont la gueule de bois. Par exemple, l'un d'entre nous dit: comment se fait-il que les Français qui soutiennent à 50-60% les gilets jaunes aient voté pour leur bourreau? Hermeline ajoute: à croire que les Français aiment les taxes et les coups de matraque. Mais dans l'ensemble, je trouve que le commentaire de Michel résume bien les choses. Il nous dit: la fracture s'aggrave entre les urbains et les ruraux. Quand est-ce que ce gouvernement comprend que ce vote est le cri de désespoir de nos campagnes? Les urbains ne voient que par la mondialisation. Donc on voit bien quand même qu'à travers ce vote, il y a la fracture mondialiste contre souverainiste, plus que gauche-droite. D'ailleurs, beaucoup de gens s'accordent à dire ce matin, beaucoup de politiques s'accordent à dire que le clivage gauche-droite est complètement dépassé. Autre commentaire, celui de Villeneuve qui nous dit: moi je suis très satisfait, Marine Le Pen est devant, Wauquiez est au fond du trou, la France insoumise est avec Wauquiez, les socialistes sont divisés et ils sont coulés par les écolos qui font un excellent résultat. Moi, je trouve que c'est très bien que les lignes politiques bougent en ce sens. Et puis, autre commentaire, celui de JFG qui nous dit: ce sont probablement les électeurs de l'extrême droite qui ont fait le score de Macron, car il est plus à droite que les Républicains. Ça revient pas mal aussi. Voilà.
Et vous savez quoi, on va partir directement au standard avec Franck qui nous appelle de Bordeaux. Bonjour Franck.
Bonjour sur la radio, bonjour à tous, merci de donner la parole.
Alors Franck, quel est votre sentiment, vous? Est-ce que vous êtes satisfait des résultats d'hier soir?
Alors je suis au moins satisfait d'une chose, et pour ça vraiment, je suis vraiment fier de mon pays, c'est le taux de participation exceptionnellement élevé, et déjà rien que ça en soi, c'est vraiment un grand succès.
Franck, il faut quand même relativiser, parce que c'est vrai qu'il y a une participation plus forte que ce qui était attendu, mais on n'est qu'à 51 des brouettes. C'est-à-dire qu'il y a 23 millions d'électeurs quasiment qui ne se sont pas déplacés hier, quand même.
Ah oui, non, mais ça, on ne peut pas être content de ça, mais pour les européennes qui sont, historiquement, des taux de participation très faibles, c'est quand même exceptionnel.
C'est vrai, c'est plus fort que ces dernières années,
Alors ensuite, j'ai deux trois petits trucs à dire rapidement. Déjà pour LR, le parti LR. Faut savoir que depuis Sarkozy qui prenait la rupture et Laurent Wauquiez qui prenait la rupture de la rupture, et où ils ont tous, c'était la discorde et la division dans la famille à droite tout le temps. Ça a été la foire d'empoigne. Donc le résultat, il pouvait être que là. Et puis ensuite. Je suis plutôt content du résultat des Verts. On peut quand même se satisfaire de ça, qu'il y ait une prise de conscience écologique en France. Parce que c'est pas que c'est urgent, là, c'est catastrophique. Faut aussi dire quand même qu'il y a eu des fraudes. Clairement, alors je le dis de façon claire, il manquait beaucoup de bulletins. C'est hallucinant qu'il faille imprimer des bulletins de vote, s'il y a beaucoup de... Ça non, c'est inacceptable. Et maintenant, on se rend compte ce matin, ça m'a sauté aux yeux, que... Il y a bien des votants qui n'étaient pas inscrits sur les listes avec ce fameux bug, entre guillemets. Et puis je terminerai là-dessus. Alors moi je suis archi contre, bien sûr, La République En Marche. On lutte activement depuis des mois et des mois et on n'arrêtera pas. Par contre, je tiens quand même à féliciter Madame Loiseau, faut être fair play, qui a servi de punching ball au pays entier et qui est restée digne, droite et debout dans la tempête. Il faut bien quand même le dire, qui a été mise en avant. Et franchement, je vais vous dire, moi qui lutte vraiment avec tous, contre Macron, la dignité est là et le score, le résultat est au rendez-vous, même si on peut douter de ce score. Il faut rendre grâce à Nathalie Loiseau d'avoir tenu face à autant d'avoir servi punching ball et d'avoir tenu vraiment, il faut être fair play.
Ah bah non mais c'est vrai qu'elle en a pris plein la tronche, si je puis dire. Oui, permettez-moi cette expression un peu triviale, mais c'est vrai. Alors peut-être qu'elle-même, elle a prêté le fer pour se faire battre aussi un petit peu, parce que bon, à 2-3 reprises, elle a accumulé les bourdes.
Non mais sur les propos physiques et tout, c'est vrai qu'elle a pris très cher.
Oui, quand on se lance dans une bataille. Merci en tout cas de vos observations, hein, Franck. Et puis faites comme Franck, n'hésitez pas à vous nous appeler. Hein,
0826 300 300. Bah oui, on vous attend.
Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous êtes satisfait ? Vous estimez qu'il faut tenir compte qu'il y ait du changement derrière également ? Vous nous appelez et puis on en débat avec Thierry Guerrier, Véronique Jacquet et puis Olivier Roucan. Olivier Roucan, votre analyse, vous, justement, de ce scrutin hier soir. Un peu comme le disait Franck, là, c'est-à-dire qu'il y a une prise de conscience écolo et puis que les Républicains, eux, ils enchaînent les catastrophes, hein.
Il y a peut-être une prise de conscience aussi au niveau européen de l'importance de cette élection, puisque la participation a été plus forte. C'est assez général, il n'y a pas que la France, même si la France, l'Allemagne se démarquent. Donc peut-être que progressivement, finalement, les citoyens dans l'Europe entière se disent que l'action au niveau de cette Europe qui est en crise, qui est décriée, qui dysfonctionne, mais c'est important dans ce monde qui bouge. Peut-être
alors, on n'a pas vu la participation partout. Il y a un auditeur là qui nous disait en fait
plus 10 points de participation moyenne à l'échelle 70% européenne.
70% d'abstention au Portugal, ça c'est vrai. J'ai pas vérifié en fait encore. C'est ce que
ça,
nous dit.
Est-ce
que nous dit un auditeur dans les commentaires
Les socialistes arrivent en tête.
Oui.
Et alors ensuite, il est vrai que dans ce sursaut de participation, si on en vient à la France ou même à l'Allemagne, on voit cette percée écologiste et le retour d'une partie, je dirais, des 18-30 ans aux urnes. Donc une abstention moindre que lors des précédents scrutains, même si elle reste majoritaire chez cette tranche d'âge.
Quand même, hein. Oui.
Alors ça, c'est une bonne nouvelle quand même, malgré tout. Ensuite, on est bien sur la confirmation, mais il y a 50% d'abstention de ce duo-duel qui sera peut-être, mais il faut garder le peut-être, à mon avis, le nouveau clivage pour la France entre La République En Marche et les populistes. Mais ça, c'est de la recomposition en cours, elle n'est pas achevée.
Oui.
Et les municipales et les scrutins à venir seront plus importants même que les européennes.
Oui. Thierry Guerrier.
Oui, il y a en effet une recomposition dont Emmanuel Macron réussit à pousser le mouvement, le Big Bang de la présidentielle, on l'a dit clairement. Ce qui s'installe, c'est qu'il a en face de lui une opposition, un porte-parole des mécontents, qui est le Rassemblement National et Marine Le Pen, avec tout de même, sur sa gauche, alors qu'il espérait pouvoir siphonner l'électorat vert, en vérité, une force verte qui s'est affirmée comme étant sans doute des porte-parole de ceux qui voulaient voter autrement, contre le duel Rassemblement National République En Marche, qui était hostile à cela et qui voulait peut-être voter de façon plus positive et qui a fait le pari de Jadot et des Verts, un pari un peu gratuit à court terme sur les européennes qui n'implique pas de grandes modifications. Là, vous avez raison, c'est que maintenant l'enjeu, c'est la suite, les municipales en particulier, qui vont peut-être permettre. Et c'est là où la droite, comme le Parti Socialiste, la droite traditionnelle comme le Parti Socialiste, ont un travail à mener dans les mois qui viennent pour pouvoir utiliser ce qui est leur base, leur enracinement, ce qui reste de force politique, c'est-à-dire l'enracinement local, les responsabilités locales avec les villes, pour pouvoir se recomposer et être présente de façon plus solide dans les mois qui viennent.
Alors les prochaines municipales vont être très intéressantes parce qu'on va voir effectivement si tous les acteurs de la vie politique ont tiré les enseignements de cette élection. À savoir que moi, ce qui me marque fondamentalement dans cette élection européenne, c'est l'expression de la France périphérique. C'est un peu ce que nous disait notre auditeur quand il disait « les campagnes ne veulent pas mourir
».
Par exemple, à Paris, La République En Marche a fait plus de 32% en 2017. C'était 34%.
Elle peut ravir Paris si elle arrive
à
s'entendre.
Voilà, ça reste encore. Mais c'est énorme. Et le Rassemblement National n'a fait que 7% à Paris. On retrouve quand même ce rapport de force globalement en Ile-de-France, hein, même si évidemment il y a,
ça,
y a
c'est
des disparités.
Très très parisien, non, parce que par exemple à Nice, qui est une grande agglomération aussi, c'est le Rassemblement National qui arrive largement en tête.
Oui, mais enfin dans le Sud, on a quand même toujours voté pas mal Front National et le deuxième enseignement.
UMP, RPR et UMP ensuite. Et là,
oui, d'accord, mais là on se rend compte que, oui, mais par exemple Bellamy n'est pas fort du tout dans les Alpes-Maritimes.
Ah bah non,
quand
il
même,
est à 11%.
C'est quand même un bastion républicain et que Christian Estrosi s'est rangé du côté des républicains.
C'est la preuve de la décomposition de la droite.
Voilà, et pas de la République en marche. Donc on se rend compte aussi que dans tous ces bastions-là, on a préféré voter utile, c'est-à-dire Rassemblement National, plutôt que Républicain. Donc on a effectivement voulu acter une bipolarisation de la vie politique, Rassemblement National contre République en marche. Mais ce qui est symptomatique quand même, c'est que dans les bastions où en 2017 on avait beaucoup voté Rassemblement National, Jordan Bardella fait encore mieux que en 2017, notamment dans le Pas-de-Calais, enfin dans le nord de la France. C'est quand même très significatif. Donc il y a quand même cette France périphérique d'un côté, ouais, cette France de la mondialisation et des grandes villes de l'autre. Et ouais, il ne faut pas qu'Emmanuel Macron perde de vue ce rapport de force, ouais, parce que c'est ça qui a suscité la colère des Gilets jaunes et de bien des Français.
Sur cette France à deux vitesses, moi je voudrais bien vous entendre au 0826-300-300. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une déconnexion et est-ce qu'il faut en tenir compte, quoi, hein, bien sûr, 0826-300-300, vous nous appelez, vous avez la parole.
Il faut peut-être être un peu précis sur cette dimension de la France à deux vitesses. Il y a deux études récentes, celle de Jérôme Fourquet avec son livre
L'Archipel.
et puis celle de l'Institut Montaigne, deux études qui ont montré que la France périphérique, c'était moins la France des métropoles contre celle du rural, qui est une idée un peu dépassée aujourd'hui, c'est plutôt celle de ceux qui sont dans la dynamique positive, dans le mouvement, mondialisation, création économique, et de ceux qui décrochent. De
donc
ceux
qui la ne, classe qui moyenne qui ne veut pas mourir.
C'est-à-dire une classe moyenne inférieure qui risque de décrocher. C'est tous ceux qui décrochent, ceux qui en effet sont plus pauvres aujourd'hui, les plus modestes, et qui n'arrivent pas à rattraper la dynamique positive de ceux qui sont en haut de la cordée, comme disait Emmanuel Macron. Et cette France périphérique-là, c'est celle-là qui pourrait aujourd'hui être séduite, s'ils en ont les moyens, par la métamorphose éventuelle des partis traditionnels, s'ils arrivent. Et l'idée, par exemple, de Raphaël Glucksmann, d'Olivier Faure, de lancer un débat de fond intellectuel au sein de la gauche est d'importance. Mais qu'auront-ils à dire dans les mois qui viennent, avant les municipales,
quand Olivier même, Ocan, ouais. Au-delà de la bipolarisation qu'on nous impose, mais enfin qui cristallise sur le plan symbolique, si on ajoute toutes les voix de la gauche autour du socialisme, écolo, plus, on est autour de 20%. Donc il y a aussi, pour la suite, ici peut-être un champ de réflexion, au-delà du fond, parce que le fond, ça va être
qui
quoi ?
Qui sera le porte-parole
l'écologie,
de cette France
dite
périphérique ? C'est ça le sujet.
Oui, mais
plutôt
pour
Marine Le Pen.
Pour la gauche, il y a aussi cet enjeu de fond d'arriver à avoir une organisation peut-être nouvelle autour de ces 20% et de ce socle électoral.
Ouais, mais alors une organisation nouvelle, comment ? C'est incarné par quelqu'un ou pas ?
Ça passera dans un premier temps par... il faudra voir, le premier test, ça sera la négociation des listes aux municipales.
Ouais, c'est ça. C'est ce qu'a dit Olivier Faure qui tend la main à Yannick Jadot.
Ouais. Oui, mais alors pour l'instant, Yannick Jadot, il veut faire cavalier seul. Il a déjà refusé la main de Ségolène Royal et pour l'instant, il est très content d'y aller tout seul. D'ailleurs, certains à gauche l'ont reproché pendant la campagne quand il était
crédité. Oui, mais les Européennes, c'est leur scrutin aux écologistes.
Voilà, et c'est un scrutin qui est favorable aux écologistes. Et moi, je dis attention aussi à ce scrutin en trompe-l'œil pour les écologistes parce que les écolos, en règle générale, au présidentiel, ils font pas grand-chose. Hein. Il tourne autour de 5%. Et là, Yannick Jadot capitalise quand même sur l'effondrement des forces de gauche, que ce soit celle de Benoît Hamon qui sort du jeu, que ce soit celle de Raphaël Glucksmann qui, pardonnez-moi, n'incarne pas la France périphérique et ne saura jamais lui parler. Et là-dessus, je pense que les auditeurs de Sud Radio ne sont pas dupes et les Français en règle générale non plus.
Oui. Non mais la question c'est bien qui... Si on veut éviter que ce soit systématiquement Marine Le Pen, et c'est le choix d'Emmanuel Macron d'installer ce duel en effet avec cynisme, mais qui peut être ailleurs, dans le reste de la classe politique, le porte-parole de cette France qui a des difficultés, de cette France
Le problème de la lecture sur le mode de la France périphérique, moi qui me satisfait pas totalement, c'est que les zones les plus pauvres et les plus en difficulté, elles sont au cœur des métropoles, des villes-mondes.
De ça, c'est ce que
alors, quand on emploie...
C'est dans la ville.
C'est bien le
voter.
Oui, mais c'est bien un problème, ça.
Donc,
la réflexion de fond, elle doit toucher, voilà, c'est ça.
Justement, on part au standard. On part à Evian et avec Sandrine au 0826-300-300. Bonjour, Sandrine.
Bonjour à tous.
Oui.
Moi, j'ai une petite réflexion. Je suis issue de la région parisienne et c'est vrai que quand je suis arrivée en province, ça a été un vrai choc.
Oui.
Un choc au niveau des services publics essentiellement. Quand on parle de la banlieue, il y a une grosse différence entre la banlieue et la province. c'est l'accès aux services publics et notamment l'accès aux hôpitaux et aux CHU. Donc j'ai regardé la carte.
C'est-à-dire, Sandrine, qu'est-ce que vous voulez dire que en grande banlieue, il y a quand même cet accès, alors que en région, en province, par endroit, c'est difficile, quoi.
Tout à fait. Là, on est à 2 heures de voiture d'un CHU, dans beaucoup d'endroits.
Vous êtes à Évian, c'est ça.
Oui, c'est ça. Alors, j'ai regardé la carte des CHU français et la carte du vote d'hier. Et en fait, vous allez voir, autour de tous les CHU, vous verrez une petite tache, on va dire orange, au milieu d'un vote très différent. Et vous allez retrouver les endroits, enfin les villes, avec CHU, avec un vote extrêmement différent. Alors le sud, c'est sûr que le sud-ouest, par exemple, il y a très très peu de CHU, donc ça peut être biaisé. Mais si vous regardez surtout sur le nord, vous allez voir deux lignes sur lesquelles apparaissent les CHU avec carrément des taches, on les voit. Vous allez repérer carrément les villes qui sont mieux équipées au niveau médical. Mmh. Et ça, c'est un vrai souci de tous les jours. Mmh, ouais. C'est-à-dire que quand vous avez des CHU, vous avez tout ce qui va avec.
Oui, c'est vrai.
Et nous, là, on a eu encore une réunion, on fait comme on peut avec nos enfants qui ont des caractéristiques, des troubles de l'apprentissage, des choses comme ça, et on en arrivait à la même conclusion. Quand on est loin d'un CHU, même ce genre de soucis, c'est plus compliqué à traiter.
Ouais. Non, mais c'est vrai. Et d'ailleurs, Sandrine, ça rejoint l'une des préoccupations majeures qui apparaissait dans le... il y a eu une étude qui a été menée par l'IFOP pour savoir quels étaient les principaux arguments en fait, du vote. Et la santé, notamment, que vous abordez là, était le deuxième, arrivait en seconde position.
Ouais, l'intérêt là, c'est qu'on a vraiment une carte. On peut vraiment regarder et on peut quasiment la calquer.
Ouais. Merci Sandrine pour ce témoignage. Vous nous avez appelé d'Évian. Donc continuez de nous appeler 0826 300 300. Vous avez la parole dans ce débat qui reprend, Cécile.
Et oui, vous pouvez continuer de commenter bien sûr sur les réseaux sociaux, hashtag Sud Radio Matin au 0826 300 300 aussi.
Véronique Jacquier, vous vouliez réagir.
Oui, je voulais réagir au propos de Sandrine parce que je vais être un petit peu rosse, mais on ne peut pas habiter en territoire rural et vouloir un CHU comme à Paris. Cette idée des années 70 où il y avait quand même parfois 2 ou 3 fois plus de population dans certains coins de France est révolue. Donc ça, c'est une première chose. Secondo, avec les avancées de la médecine, il vaut mieux un CHU plus loin, mais avec un super plateau technique, avec de très bons chirurgiens, avec de très bons robots qui sont au dernier cri pour vous opérer correctement, plutôt que d'avoir des petits hôpitaux partout où vous vous faites charcuter.
Moi, j'apporterais bien un bémol à ce que dit Véronique Jacquier. Avec deux dimensions. La première, c'est qu'on explique dans la transparence les réformes que l'on mène dans le domaine médical, ce que ne fait pas l'équipe de Madame Buzyn aujourd'hui. Elle n'explique pas assez pourquoi.
Par ailleurs,
au même moment, on ne modifie pas les règles de transport sanitaire et notamment des ambulances, alors même que l'on va retirer une capacité d'accès aux services hospitaliers par ce biais. Il y a peut-être un problème en effet de financement qui est important.
Ce que je veux dire, c'est que ce dont se plaint Sandrine, c'est malheureusement le sens de l'histoire. Moi, je connais... Je connais une petite vallée du fin fond des Alpes de Haute-Provence.
C'est un calcul très macronien et très cynique, celui qu'elle vote là.
Où vous allez si vous êtes malade à l'hôpital de Gap, où personne ne veut aller parce qu'il a très mauvaise réputation et qu'on n'opère pas comme à Paris. Résultat, vous partez à 3 heures de là, à Marseille. Bon, voilà. Oui. Là, je pense...
Alors... Si on vous paye l'ambulance... Olivier, d'un mot, Olivier Roucan, et puis on va reprendre Sandrine.
Très rapidement, on oublie trop les collectivités territoriales sur ce sujet, parce que les départements notamment et certaines intercommunalités essaient de mettre en place des systèmes de transport plus efficaces. Bref, il y a de ce point de vue une action, mais qui est après assez différenciée, qu'il faudrait mieux prendre en compte.
Sandrine, vous avez entendu le débat que vous avez soulevé, c'est bien, suscité sur le plateau, Sandrine, oui.
Oui, mais alors le CHU, j'ai envie de dire, c'est la face visible de l'iceberg. Ouais. Alors il y a tout ce qui va avec, et puis il y a l'économie qui tourne autour du CHU. Mmh. Ça veut dire que quand on est dans une zone CHU, on a le service en général aussi d'une préfecture. Mmh. Qu'aujourd'hui, quand vous avez besoin de faire des papiers en sous-préfecture, tout ce qui concerne les voitures, c'est traité sur Internet. que vous vous retrouvez dans une situation...
Non mais Sandrine, vous avez entendu que Emmanuel Macron a tiré les enseignements du grand débat et que d'ailleurs ça a commencé sous François Hollande, on ouvre partout des maisons de services publics en région. Hein, donc il ne faut pas voir tout noir non plus.
Excusez-moi d'en rire. Ouais. Aujourd'hui...
Bah, écoutez, si tout est négatif...
Non, Sandrine, elle est sur le terrain, elle voit aussi certaines choses.
Allez-y Sandrine, vous écoutez.
Vous êtes gentille, mais tout négatif comme ça, tout à coup... Non, on n'est pas dans le tout négatif. On est dans la critique justement constructive, c'est-à-dire de se dire, en effet, il y a des déséquilibres économiques à travers notre pays. Après, il ne faut pas s'étonner d'avoir des déséquilibres aussi au niveau des votes. Quand vous regardez la carte du vote, vous regardez quels sont les équilibres économiques, vous allez retrouver les zones qui se sentent, et pour sans doute de bonnes raisons, défavorisées. Oui. Alors après, on peut se dire, oui, mais c'est comme ça, parce que si vous voulez un CHU, vous allez habiter en ville. Mais ok, mais pourquoi obliger des gens à aller habiter dans un endroit précis juste pour pouvoir vivre correctement? Et c'est pas seulement pour le CHU, c'est pour un ensemble de données, c'est-à-dire l'emploi, c'est-à-dire que moi j'ai connu les campagnes, j'ai 50 ans, j'ai connu les campagnes dans lesquelles il y avait des petits villages avec des usines et des gens qui travaillaient à la campagne dans des usines et qui vivaient extrêmement bien, mais c'était pas leur but. Leur but, c'était d'en vivre. Ouais. Aujourd'hui, vous travaillez et vous n'en vivez pas.
Ouais. Ça, c'est vrai, Sandrine. Et c'est ce qui s'est passé à travers le scrutin hier soir et ses résultats. D'un côté, il y a une forme de mondialisation un peu heureuse, défendue par Emmanuel Macron. Et puis de l'autre, cette France qui craint, qui angoisse, qui a peur. On va continuer d'en débattre et vous continuez de réagir aux propos de Sandrine, de Véronique Jacquier, de Thierry Guerrier et d'Olivier Roucan. Dans un instant, évidemment, sur Sud Radio.
Oui, 0826 300 300 à continuer sur Twitter, hashtag Sud Radio Matin. Merci d'être avec nous. On revient tout de suite. Il est 9h26.
Le Grand Matin Sud Radio. L'enquête de la matinée.
Il est 9h30. Avant de revenir à notre débat très intéressant sur ces élections européennes, juste vous dire que Patrick, dans un instant, on fera un livre qui s'appelle Les bons comptes font les bons amants.
Ah, marquer une petite. Ah oui, oui, les bons comptes font les bons amants.
Oui, absolument.
De quoi s'agit-il?
Et on va voir si effectivement l'argent est un tue-l'amour dans le couple.
Ah bon?
J'ai l'impression que oui.
C'est
un peu.
Source de conflit, ah bah c'est ça.
Et c'est même source d'emmerdement très très fort.
Ah ouais,
donc,
bon, bah alors,
voilà, on va vous donner.
toutes les informations.
On va vous
de
donner
ça.
Des bonnes infos avec notre invité qui s'appelle.
Font les bons amants.
Héloïse Boll, mais on retourne à notre débat. On est toujours en ligne avec Sandrine.
Sandrine n'est plus là puisqu'elle a répondu à Véronique Jacquier. Donc, êtes-vous satisfait du résultat des votes hier soir? Véronique, on est combien pour l'instant?
Pour l'instant, 67% de non, 67% d'insatisfaction du côté des auditeurs de Sud Radio sur le compte Twitter de Sud Radio, avec un auditeur qui nous dit non, je ne suis pas content parce que le débat démocratique a été confisqué au profit d'un énième combat Macron Marine Le Pen, il nous reste la peste et le choléra. C'est vrai qu'il y a quand même aussi une forme de frustration de voir que le président de la République avait campé le match entre son parti et le Rassemblement National. Ça a marché et quand même, rappelons-le, pendant cette campagne qui était tristoune, on a un président qui a tué la campagne et on n'a pas abordé les vrais débats et les vrais enjeux pour les européennes.
Oui.
Je voulais répondre à Sandrine parce que je suis un petit peu sévère en termes de décentralisation. Et d'ailleurs, il y a Joël sur Twitter qui me dit « Véronique Jacquier, arrêtez d'opposer les citadins aux campagnards, on n'est pas forcément toujours opposés. »
Non, ça, c'est pas faux,
je comprends le cri et l'inquiétude des gens qui disent « on n'a pas de CHU, il nous manque des hôpitaux, il nous manque des services publics. » Alors, j'en ai bien conscience, surtout qu'il existait il y a quelques années, et je vais dire comme les vieux de la vieille, c'était mieux avant, il existait la DATAR, il existait même un commissariat au plan, c'est encore plus vieux. Toutes ces questions-là permettait, enfin en tout cas la DATAR, qui a été remplacée, mais maintenant c'est un comité Théodule quand même extrêmement technique.
Non, c'est un commissariat général qui a des moyens quand même.
Oui, mais on n'en entend jamais parler. Alors qu'on avait l'impression, et c'était avant d'ailleurs la création des super régions, on avait l'impression que la DATAR quand même servait à harmoniser dans les régions, quid de la création d'un hôpital à tel endroit, est-ce que ça déséquilibre pas l'autre? Enfin, il y avait quand même une réflexion générale sur l'aménagement du territoire qu'on ne voit plus aujourd'hui. Vrai ou faux, Olivier Roucan? Enfin, moi, c'est mon sentiment.
Je serais plus nuancé. Je pense que bon, le commissariat général à l'égalité des territoires qui a été créé a absorbé la DATAR. L'idée, c'était quoi ? C'était d'associer la politique qui vise à résorber les inégalités urbaines et rurales et de la mettre en cohérence avec la politique de la ville. Ce qui me permet de dire que c'est aussi dans les grandes métropoles qu'on a une désertification des services. Hein. CHU ou pas. Donc là, la lutte
oui,
contre...
c'est vrai dans certaines banlieues.
La lutte contre la baisse d'attractivité, la baisse d'équipement, elle vaut aussi bien ici pour certaines zones rurales qui sont en déprise que pour certaines zones situées dans les grandes banlieues. Donc le vrai problème, et le président a essayé d'évoquer des pistes, mais la question c'est, il est à mi-mandat, est-ce qu'on est encore au moment où il faut évoquer des pistes ou est-ce qu'il faut mettre une action
forte ? Ce qui est incroyable quand même de la part d'Emmanuel Macron, c'est que bon, il a mis tout son poids dans la bataille, hein, enfin c'est lui qui le dit, il a perdu. On peut pas dire en fait autre chose. Il a perdu, non mais on peut dire oui. Ouais. Alors on perd. Enfin une défaite. Vous perdez. Vous jouez au foot ou vous jouez au rugby. Vous perdez 21-20 ou 1-0. Vous avez perdu. Mm. Peu importe si c'est après les prolongations. Donc pourquoi il ne veut pas tenir compte quand même de ce résultat hier soir et garder le cap ?
Parce qu'il estime, à mon avis, que ce qui lui permet de faire un résultat moins mauvais que prévu...
Non mais ça, c'est de l'analyse, pardonnez-moi.
Non mais vous me dites pourquoi... quel est, à mon avis, il se dit, grâce aux réponses, au grand débat et aux réponses données... et à leur mise en œuvre qui vont prendre quand même qui va prendre quelques mois, il va pouvoir répondre à ses attentes. Ouais. Ça, à mon avis, c'est son pari et c'est la raison pour laquelle il dit je vais pas changer de cap. Ouais. C'est un pari très risqué, comme celui d'ailleurs de s'enfermer dans cet affrontement avec les populistes, parce que si on fait le total hier, on est sur tout juste, on est sur moins de 50% des suffrages exprimés. La République en marche et le Rassemblement national. Donc s'enfermer là-dedans. Là, vous aviez l'auditeur qui disait ben, « je me sens pas représenté, je suis déçu parce que je me sens pas représenté ». Le gros problème, c'est ça. Il faut quand même mettre en place un système de partis qui permette une représentation de toutes les sensibilités.
Oui.
C'est vrai que c'est quand même extrêmement dangereux de voir cette bipolarisation. Les Républicains, en plus, à mon avis, sont dans les choux pour un moment, puisque pour l'instant, Laurent Wauquiez n'a pas l'air de vouloir lâcher les rênes du parti. Pourtant, évidemment, on le voit ce matin, les règlements de compte commencent. Oui. Gérard Larcher lui dit quand même, il faudrait peut-être ouvrir à la droite et au centre, même tonalité chez Valérie Pécresse. Et on se rappelle quand même que Nicolas Sarkozy avait tiré les enseignements de la défaite en 99 quand il avait fait 12,89%, Nicolas Sarkozy avait dit « bon ben évidemment je démissionne ». Donc là, les Républicains sont dans les choux pour longtemps, surtout que Marine Le Pen leur fait déjà des offres de service. Elle a tendu la main.
Oui, puis Jean-Paul Carreau l'a dit du Rassemblement National, qui est issu de autrefois à feu le RPR, disait « moi mes anciens amis sur le terrain, ils ont envie de venir ».
Donc Thierry Mariani, de ce point de vue, a mis en place une stratégie.
Mais le RPR de 1986 disait exactement la même chose sur l'immigration. Que le Bien Rassemblement sûr. National d'aujourd'hui. Et effectivement, quand on voit la façon dont a parlé François-Xavier Bellamy de l'immigration, de Schengen, etc., il le disait d'une façon plus douce que le Rassemblement
Trop
National,
soft,
mais sur le fond, la tonalité n'était pas très différente. Ouais. Donc,
On retourne
au standard avec quelqu'un qui a envie d'être caché. Patrick qui nous appelle de l'Ariège. Bonjour Patrick.
Oui, bonjour.
Bonjour Patrick.
Bonjour. Voilà, moi j'ai répondu tout à l'heure à votre question concernant la satisfaction par rapport à l'élection.
Oui.
Moi-même, si j'ai le sentiment d'avoir un petit peu renié mes convictions profondes en votant, je suis malgré tout content du résultat. Je pense que la catastrophe, à mon sens, a été évitée, parce que la véritable catastrophe eût été que le président de la République arrivait en tête.
Voilà. Oui.
Donc je pense qu'à partir de là, ça donnera malgré tout un petit coup de frein à son appétit insatiable. Je l'espère. Ça le fera réfléchir, même si ça ne fait pas réfléchir beaucoup, puisqu'il a déjà dit qu'il garderait le cap.
Bah oui, alors, c'est ce qu'on disait. Vous avez entendu, hein, Patrick. Alors, c'est ce qu'on disait. Et finalement, il est quand même battu. Hein. Une défaite, c'est une défaite, hein, quoi qu'on en dise.
Oui, certes, mais imaginez le cap qu'il aurait pris s'il était sorti gagnant.
Ah bah oui.
Oui, alors Patrick, voilà. Patrick, vous avez raison, il y a beaucoup d'auditeurs qui vont dans votre sens, qui disent on a voulu donner une petite raclée à Emmanuel Macron pour qu'il ait la tête qui dégonfle, c'est-à-dire qu'on est quand même toujours sur cette addition de colère apportée évidemment depuis 6 mois par les Gilets jaunes, même si le mouvement s'est un peu dégonflé aussi, mais il y a quand même cette colère, on a un président arrogant, on va lui dire stop, attention, faut pas aller trop loin, faut pas aller trop loin dans les réformes, faut rester juste et il faut rester social.
Oui, Patrick, continuez.
Mais j'étais exactement dans cette logique-là. Hein, oui. Voilà, moi, je même si ma situation personnelle, je n'ai pas à me plaindre. Mais moi, je pense aux autres. Hein, je pense aux autres. Je trouve que je suis dans un département rural où beaucoup de choses ont disparu.
Oui. Est-ce qu'il y a eu une forte Patrick, chez vous, il y a eu une forte mobilisation hier des électeurs qui, forte, c'est relatif, mais plus que prévu ou pas?
Plus que prévu, oui.
Ça, ouais, plus que prévu.
Plus que prévu. C'est qu'il est clair, il y a quelque part une fois de plus, et il n'y aura pas besoin de malheureux. Bon, je pense qu'il n'y aura pas besoin d'un artefact comme un grand débat pour s'en rendre compte.
Ouais.
Une fois de plus, il y a un cri de colère qui a été lancé parce que les gens ne sont pas contents. Le problème, c'est que personne parmi les partis, je dirais différents, je ne vois personne capable de reprendre ce cri. Parce que malheureusement, tous les autres partis plus traditionnels, moi je les sens, ne seraient peut-être pas leur tête de liste, mais les complaisants de leur parti, moi je les sens prêts à se rallier à La République En Marche.
C'est
ce qu'ils font.
C'est pas faux pour certains grands leaders de la gauche, hein, au PS, des personnalités qui sont hésitantes et d'autres à droite qui sont toujours hésitantes, droite au centre, quoi. Hein, c'est ça.
Oui, mais on attend l'opportunité. Voilà. Alors, on est quand même quelque part politiquement dans une impasse un petit peu tragique, parce que si on regarde les résultats du président Macron, finalement. Il garde son socle d'électeurs du premier tour de la présidentielle, qui n'a pas bougé. Je pense que la composante a un petit peu évolué. Et s'il devait être, et je pense qu'en 2022, il sera élu sans coup férir. Aucun problème.
Oh ben, attendez, il peut toujours y avoir des choses. Hein.
On a vu qu'aujourd'hui, d'ici 2022.
Tout va très vite et le phénomène s'accélère.
Je suis pas très optimiste de ce côté-là, excusez-moi. Même je suis un peu comme Jaurès. Oui. Même si je pense avec pessimisme, j'essaye d'agir avec optimisme.
Oui.
Mais c'est parfois difficile, notamment en votant hier.
Oui. Voilà. Est-ce que, Patrick, vous ne regrettez pas finalement que les partis traditionnels, sans les défendre plus que ça, mais que ce soit les Républicains ou le Parti Socialiste, vous ne regrettez pas qu'ils soient un petit peu plus haut pour pouvoir peser, en tout cas, dans le débat?
Oui, éventuellement, oui, effectivement.
Oui.
Le problème, c'est que moi, je pense qu'on va le voir au moment des municipales, les ralliements réels ou déguisés vont être nombreux.
Oui, ah ben ça, il va y avoir des grandes manœuvres, ça c'est sûr, vous avez raison, hein, pour les municipales.
Et les petites gens que je vois souffrir et qui sont sur le rond-point depuis des mois, il n'y aura toujours rien pour eux.
Oui, ça c'est vrai. Merci hein, Patrick de nous avoir appelé de l'Ariège. Olivier Roucan et Véronique Jacquet, on va conclure. Particulièrement juste et plein de bon sens dans la réflexion de Patrick, non ?
Oui, l'essentiel a été dit finalement. Il y a aujourd'hui une difficulté. On veut dépasser le clivage droite-gauche, dans tous les cas certains, c'est ce qu'on nous assène parfois à longueur de journée. Pour autant, les attitudes profondément ancrées restent marquées par ce clivage, simplement on lui donne moins corps, on sait moins ce qu'il va signifier précisément. Donc on a effacer la teneur de ce clivage. Pour autant, lorsqu'on dit « et droite et gauche » ou « ni droite et gauche », on ne sait pas ce dont on parle. C'est-à-dire que ça, le grand problème, c'est ensuite pour mobiliser.
Oui.
Pour mobiliser des électeurs, pour refabriquer du consentement, on voit bien avec le président Macron, c'est très difficile parce que c'est trop flou.
Oui. Véronique ?
Oui, moi je voudrais mettre un coup de projecteur sur deux choses pour conclure. D'abord, il y a quand même eu ce sursaut politique, le fait que beaucoup de Français se sont dit on va peut-être penser plus politique à travers la colère des Gilets jaunes depuis 6 mois. Or, on le voit, les listes Gilets jaunes, ça a été un fiasco, hein, la liste Alliance Jaune de Francis Lalanne.
Oui, mais parce que beaucoup de Gilets jaunes avaient dit qu'il ne fallait pas de liste.
Mais parce qu'ils ont voté utile, ils nous l'ont dit tout au long de la semaine dernière, et ils nous l'ont dit, le message qu'on veut faire passer, si on veut faire dégonfler la tête de Macron.
Oui.
Donc on n'est pas
oui,
allé voter.
Oui, mais c'est insatisfaisant l'utilité. Voilà. Les gens veulent voter par conviction au fond d'eux-mêmes.
Voilà, mais la liste Alliance Jaune de Francis Hollande a fait 0,54%.
On l'attend toujours d'ailleurs.
122, voilà, Francis il devait Hollande, être avec nous. Pas, 122 000 voix. Et puis la liste Évolution Citoyenne, 0,01%. Et puis les politiques qui ont tiré la couverture à eux avec la colère des Gilets jaunes, que ce soit Nicolas Dupont-Aignan ou Florian Philippot, bon, bah, ils n'ont pas fait un carton loin de là.
Ah, bah, non,
hein.
Non,
bon,
non, non, non.
Voilà, ça, autre enseignement.
Florian Philippot, 0,7.
Autre enseignement, effectivement, dans les mois et dans les années qui viennent, Emmanuel Macron me semble en mauvaise posture. C'est quand même le seul leader européen qui se voit dépassé par l'extrême droite dans son pays. Les autres, même s'ils font des scores faibles, sont quand même confortés dans les scores qu'ils remportent à l'échelle européenne. Angela Merkel, Italie, Salvini, qui a quand même fait 34% avec la Ligue.
En Espagne,
les socialistes, 32%. La Pologne, les nationalistes sont à 43%. Et puis Viktor Orban, quand même, 52%.
Ouais, c'est absolument.
Voilà, Emmanuel Macron, il conforte son socle du premier tour de la présidentielle. Mais enfin, il ne fait pas mieux.
Ouais, bah pour la présidentielle, je vous rappelle quand même son score. Il a fait
24-01.
Le Front National de Marine Le Pen, 21 à l'époque. Et puis les Républicains, donc emmenés par François Fillon, qui était à 20 devant Jean-Luc Mélenchon à 19,58. Eux, ils se sont littéralement effondré, hein, évidemment, alors que le PS, on dit bah, le PS est au fond du trou, mais il l'était déjà, parce que Benoît Hamon était à 6,3% déjà lors de ce premier tour de la présidentielle. On termine, Véronique.
On termine à 67%, 67% des auditeurs qui disent qu'ils ne sont pas satisfaits par les résultats du vote.
Oui, ouais, c'est ça. Alors que dans les appels, on allait dans l'autre sens.
Oui.
En fait. Merci.
Merci beaucoup. Merci de nous avoir appelés ce matin. C'est Valérie Expert.